Et au programme de ces deux heures d'information, la première tache d'huile dans ce gouvernement Borne à peine formé. Mediapart sort un dossier où Damien Abad est accusé de violence sexuelle par deux femmes. Le nouveau ministre des Solidarités conteste avec véhémence. La première ministre affirme quant à elle qu'elle tirerait les conséquences si de nouveau la justice venait à être saisie. On fait le point dans un instant. Et à 18h15, l'invité politique qui est le conseiller régional Pierre Licia, ancien soutien fervent de Valérie Pécresse, fait-il partie de ses élus qui avaient eu vent de ces agissements de Damien Abad? Nous lui poserons la question. Une phrase qui nous interpelle ce dimanche. Il faut être honnête, si on dit que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, on ment, ce n'est pas vrai. C'est sans doute 15 ou 20 ans, c'est très long. Cette phrase, c'est Clément Beaune qui la prononce. Le ministre délégué à l'Europe joue la transparence. Mais tiens, en fait, c'est quoi le mode d'emploi pour entrer dans l'Union? Comment ça se passe? Christian Lequen, prof à Sciences Po, nous explique tout dans un instant. Dans ce journal également, première journée à Roland-Garros, nous ferons le point avec le service des sports. Nous irons à Madrid pour recueillir les réactions dépitées de ceux qui attendaient encore Kylian Mbappé. 18h30, ça fait débat entre Philippe Doucet du PS et Agnès Evren DLR. 19h, le journal de Sophie Tussaud. 19h15, la sécheresse. Elle est déjà présente dans de nombreux territoires suite à des records de chaleur la semaine dernière. Va-t-elle s'étendre? Situation compliquée pour les agriculteurs. Ils seront là, ils témoigneront. Le météorologue Jean-Michel Soubérou également nous parlera de l'évolution possible de ce phénomène climatique. Et puis 19h45, c'est un nouveau rendez-vous pendant cette quinzaine à Roland-Garros. Service Pioline avec bien sûr l'intéressé Cédric Pioline, notre consultant. Et Axel May, on passe en revue la journée à Roland-Garros, Europe 1 Radio officielle. C'est donc la bombe du jour. À peine formé, le nouveau gouvernement Borne ébranlé par une affaire de violence sexuelle concernant le nouveau ministre des Solidarités. Damien Abad, transfuge des LR, handicapé de naissance, atteint d'arthrogrypose, je le dis parce que c'est important pour la suite du sujet, est accusé de viol par deux femmes. Et c'est Mediapart qui révèle cette affaire, Guillaume Dominguez.
Oui, pour des faits qui remontent à septembre 2010 et janvier 2011. Dans son enquête, Mediapart publie le témoignage de deux femmes, Chloé et Margot, qui explique avoir eu un flirt avec l'élu. Dans les deux cas, elles auraient échangé avec Damien Abad par SMS avant d'accepter un premier rendez-vous. Les deux jeunes femmes décrivent des échanges parfois insistants, allant même jusqu'à des demandes de photos d'elles dénudées. Chloé raconte avoir bu une simple coupe de champagne lors de son rendez-vous avant de se réveiller le lendemain dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements, sans se souvenir de sa soirée. Margot, elle raconte avoir accepté une relation sexuelle avec l'élu après son rendez-vous, mais avoir été forcée de réaliser certaines pratiques au cours du rapport. Les deux femmes ont déposé plainte pour viol, mais dans les deux cas, les dossiers ont été classés sans suite. Entendu par la police, dans ces deux affaires, Damien Abad s'est défendu, contestant formellement les faits. Il explique n'avoir eu que des rapports consentis au cours de sa vie et met en avant son handicap, expliquant qu'il est physiquement incapable de forcer quelqu'un. Un signalement de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique a été envoyé à La République En Marche avant la nomination de Damien Abad au poste de ministre des Solidarités. Les dirigeants du parti ont déclaré ne pas avoir ouvert leur boîte mail.
Merci Guillaume Dominguez. En effet, pour compléter ce que vous venez de dire, Damien Abad précisément dit qu'il est dans l'incapacité de porter une personne, de la transporter et de la déshabiller en raison de son handicap. Elisabeth Borne, de son côté, la première ministre, affirme quant à elle qu'elle tirerait les conséquences si de nouvelles plaintes venaient et si la justice venait à être saisie. L'Ukraine, près de 3 mois après le début de son offensive, la Russie poursuit ses bombardements sur l'est du pays à la veille d'un discours du président Zelensky au forum de Davos. Le président polonais Andrzej Duda s'est rendu à Kiev pour soutenir Zelensky dans sa volonté d'entrer dans l'Union européenne. Le président ukrainien souhaite en effet une procédure accélérée. Paris, par la voix de son ministre délégué à l'Europe, Clément Beaune, fait toutefois savoir que ce n'est pas pour demain ni pour après-demain.
Entrer dans l'Union européenne, c'est pour ça que ce projet est important, exigeant. Il faut, c'est sans doute peut-être 15 ou 20 ans, peu importe, c'est long, c'est très long. Et donc moi, je ne veux pas qu'on vende des illusions et des mensonges. Si on dit aux Ukrainiens, bienvenue dans l'Union européenne, mais vous n'avez pas lu sur le contrat la note de bas de page, coucou, c'est dans 15 ans, je pense qu'on prépare demain des déceptions pour toute une génération du peuple ukrainien. Alors,
voilà, le ministre délégué à l'Europe, Clément Beaune, 15 ou 20 ans, dit-il, loin des 6 mois ou 1 an désiré. Bonsoir Christian Lequen.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Europe, prof à Sciences Po. Concrètement, synthétiquement, j'allais dire, c'est quoi le mode d'emploi de l'entrée d'un pays dans l'Union ?
Alors d'abord, c'est un dépôt de candidature par le pays qui souhaite rejoindre l'Union européenne. Il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut être tout d'abord un pays européen, c'est ce que disent les traités. Ensuite, il y a un avis de la Commission européenne qui est positif ou négatif. Puis c'est suivi d'une décision d'ouvrir des négociations d'adhésion. Ces négociations d'adhésion, les décisions se prennent ensuite à l'unanimité. Et enfin, il y a une ratification à la fin par l'État candidat et par l'ensemble des 27. Et il y a aussi un avis conforme qui est demandé au Parlement européen. Donc vous voyez, il y a des garanties, il y a des sécurités. Tout ça prend effectivement du temps. Monsieur Beaune a raison.
Il a raison quand il dit 10 à 15 ans ?
Oui, bah écoutez, on a eu jusqu'à 10 ans pour les pays d'Europe centrale et, et orientale, qui partaient de moins loin que l'Ukraine. Mais il me semble quand même important de dire qu'il y a des garanties, qu'il y a des sécurités. Je pense à ça, notamment pour les opinions publiques qui seraient un peu effrayées. Oui. Voilà, donc, et par ailleurs, pour les Ukrainiens, il ne faut pas simplement appuyer toujours sur le côté négatif de l'attente. Il faut aussi leur dire que voilà, ils ont vocation à adhérer, mais il ne faut pas leur faire croire, là je suis tout à fait d'accord, qu'on fait ça en un an.
Oui, mais
ça,
on parle de ça parce que Volodymyr Zelensky veut une procédure accélérée. Qu'est-ce que c'est une procédure accélérée ?
Ben, ça n'existe pas au regard des traités. C'est-à-dire que c'est une mesure totalement ad hoc qu'il souhaiterait avoir, oui. Tout simplement parce que son pays est en guerre et parce que son pays a envie de rejoindre l'Europe pour s'émanciper de la Russie. Mais ça, je le comprends. Les valeurs auxquelles aspire le peuple ukrainien sont plutôt des valeurs proches de l'Europe que de la Russie. Ça, ils en font la démonstration par leur résistance quotidienne. Mais en même temps, on ne peut pas accélérer les choses. On a déjà quand même accepté de faire assez vite pour rendre l'avis de la Commission. C'est-à-dire qu'il sera rendu en quelques mois.
Quand vous avez dit qu'il faut apporter des garanties, c'est comme un dossier pour un emprunt immobilier, par exemple. Il y a quoi dans les garanties ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, il y a des critères qui ont été définis en 1993, qu'on appelle les critères de Copenhague. Donc, il faut remplir des critères au regard du fonctionnement de votre politique, du droit de vos minorités, de la démocratie, mais aussi du fonctionnement de votre économie de marché. Donc, c'est un véritable examen qui se fait chapitre par chapitre. On n'entre pas sans que chacun des chapitres ait été examiné et fermé. Voilà. Donc, ça explique pourquoi tout ça prend énormément de temps.
Et en tout cas, pas 6 mois ou 1 an, comme le disait encore ce matin Clément Beaune. Merci beaucoup, Christian Lequen, d'avoir été avec nous 18h08. Vous restez avec nous. Et dans un instant, on file à Roland-Garros.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. 18h10, on continue le journal. Et le journal, c'est bien sûr la page sportive avec cette première journée à Roland-Garros. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Pierre de Villeneuve, bonsoir
à
tous.
Une Française actuellement sur le court, Philippe Châtrier.
Exactement, c'est Clara Burel qui a fort à faire face à la tête de série numéro 4, la grecque Maria Sakkari, demi-finaliste ici même l'an passé. Et les deux joueuses qui jouent un petit peu à l'élastique, c'est-à-dire que Sakkari qui se détache et Burel qui recolle au score. Mais on va dire que la tendance est en train quand même de se confirmer, c'est quand même la favorite qui est devant. 5 jeux à 2 pour l'instant dans la première manche pour Maria Sakkari. Si vous voulez faire rapidement un petit bilan français du jour, on a simplement un seul tricolore qualifié pour le deuxième tour pour l'instant, c'est Grégoire Barrère, et c'est la première fois de sa carrière pour le Parisien de 28 ans qui a battu le Japonais Daniel Taro. Il a joué aux cartes et au tennis, victoire en 5-7. Pour le reste, il y a des défaites, Carole Monet, Harmony Tan notamment dans le tableau féminin, de même que Quentin Alice. Juste un petit mot encore pour vous dire qu'on attend ce soir l'une des sensations du tennis du 21e siècle, en tout cas de ces années 2020, c'est Carlos Alcaraz, l'Espagnol, le jeune Espagnol, qui sera demain l'invité d'Europe 1 et qui va jouer face au repêché argentin Juan Ignacio Londero. Ce sera juste après le match de Clara Burel.
Merci Jean-François Pérez.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et à 19h45, on en saura encore un peu plus sur cette journée à Roland-Garros avec Cédric Pioline et Axel May dans ce nouveau rendez-vous à 19h45, pendant toute la quinzaine, c'est le service Pioline. Le foot à présent, et nous vous le confirmons ici même, à la même heure hier soir, Mbappé reste donc au PSG au prix d'un chèque que ni vous ni moi ne préférons connaître. En attendant, au Real Madrid, c'est la soupe à la grimace. Le président de la Liga est resté sobre, mais fermement a fait savoir que c'était une insulte au football. Zoé Palier, vous êtes à Madrid pour Europe 1. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Vous avez lu la presse, pas tendre, hein, on imagine.
Oui, et le mot qui revient un peu comme un refrain, c'est celui de trahison. Le quotidien sportif Marca tacle même Mbappé. Il faut beaucoup de classe pour jouer au Real, titre le journal sous une photo du joueur. Devant un kiosque, j'ai croisé José, souriant devant la une, elle aussi cinglante, du journal As.
C'est la plus claire de toutes. Elle dit, c'est lui le perdant. Je pense la même chose. Il y perd. Il aurait pu gagner avec tous les joueurs du Real de Madrid.
Et sur les plateaux, les commentateurs se révoltent avec beaucoup de passion. Vous allez l'entendre avec cet intervenant de l'émission Chiringuito.
C'est nul.
Qu'il reste à Paris, voir le Real remporter la 14e, sans lui, chez lui. Car sur le terrain, il y a Benzema, Modric, Vinicius, et lui, il sera dans les loges. Nous, on en aura 14.
Mais sans nous, la Champions. Et nous, 14.
Et un peu comme des amoureux éconduits, toute la journée, les journalistes ont continué à livrer des analyses. Pourquoi a-t-il fait ce choix pour le porte-monnaie, écrit sobrement un rédacteur en chef. En tout cas, tous sont d'accord pour dire que le Real semble avoir fermé ses portes à vie à Kylian Mbappé.
Merci Zoé Palier, en direct de Madrid pour Europe 1 à Cannes. On va rentrer dans la deuxième semaine de compétition. La Palme d'Or sera remise samedi prochain. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Marie Jiquel. Bonsoir Marie.
Bonsoir à tous.
Mais pour le moment, il n'y a pas eu de film ou de prétendant, on va dire, flamboyant.
Et oui, le bilan à mi-parcours de ce Festival de Cannes, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de révélation, pas d'évidence. Alors oui, il y a eu quelques bonnes surprises, comme le nouveau film de Michel Hazanavicius, Coupé, et puis des déceptions certaines, comme le film de l'acteur coréen de Squid Game, Lee Joon-jae, Hunt. Mais dans l'ensemble, les films en compétition sont très propres, bien filmés, bien montés, bien joués. Le film du russe Serebrennikov, La femme de Tchaïkovski, le nouveau Desplechin, Frères et sœurs. Il y a eu aussi beaucoup d'engouement pour Armageddon Time de l'américain James Gray, ou le film Ian du réalisateur polonais Skolimowski, qui raconte le voyage d'un âne. Vous ne rêvez pas, c'est très inspirant. Mais pour l'instant, pas de film coup de poing ou coup de cœur. On a quand même eu des frissons avec la présentation de Mariupolis 2, le documentaire sur les ruines de la ville ukrainienne de Mariupol, mais il est hors compétition. Ici à Cannes, on parle plus de la venue de Tom Cruise ou celle de Julia Roberts que des longs métrages. Alors peut-être que cela va changer avec la présentation aujourd'hui du film de Valeria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers, sur l'école du théâtre de Nanterre et son metteur en scène Patrice Chéreau, très attendu ici sur la Croisette.
Merci Marie Jiquel à Cannes pour Europe 1. On termine par le ciel, Valérie Dermont, et prudence sous les orages.
Effectivement Pierre, le ciel tonne entre les Landes et le Rhône jusqu'au Cher. L'atmosphère est de plus en plus lourde avec 30 degrés en moyenne de Toulouse à Bergerac, à Limoges, au Puy, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Aurillac, à Rodez, à Saint-Étienne, avec un ressenti approchant 35 à 40. La vigilance va évoluer au fil de la nuit, ces orages qui vont se décaler vers le nord et le Morvan. Au fil des heures, ils peuvent être parfois violents, ils remonteront jusque sur le bassin parisien. Vous le savez, 21 départements sont toujours en alerte orange orage, toujours les mêmes, ceux du sud-ouest jusque dans le centre de la France. Demain, ce régime d'averse sera généralisé, excepté le long du pourtour méditerranéen, dans un air beaucoup plus frais. Les températures vont chuter vertigineusement au sud, avec 10 à 15 degrés de moins que ce dimanche, notamment en Aquitaine.
Merci Valérie Darmon. Voilà donc pour l'actualité. Prochain journal à 19h avec Sophie Tusson. 19h16, dans un instant, mon invité politique, c'est Pierre Licia. Vous l'avez maintes fois entendu ici, dans ce studio, dans cette émission, lorsqu'il soutenait Valérie Pécresse à la présidentielle. Que devient-il ? A-t-il, comme Valérie Pécresse, rejoint la famille DLR ? Dans ce cas, est-ce que cette famille a un avenir ? Mais si oui, lequel ? A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.